Non, mais tu as raison de souligner le problème, parce que c'est un véritable danger qui est en face de nous, qui est en train de se préparer. C'est un vrai danger, une vraie menace. Ça, c'est clair. On le sent tous autour de nous, que les idées du Front National, extrêmement réactionnaires, progressent et prennent de l'ampleur. Que ça soit dans les usines, dans les entreprises, dans les quartiers, on le sent de plus en plus. Alors, est-ce que les gens, ils sont cons? Non, moi, je ne poserai pas le problème comme ça. En tout cas, j'y répondrai pas comme ça. Tu sais, la gauche, elle est, c'est malheureux à dire, mais la gauche, elle est responsable de la montée du Front National. Que ça soit sous Mitterrand, sous Jospin, Edith Cresson et ses charters. Les premiers charters, c'est pas la droite, hein, c'est pas Sarkozy, hein. C'est Cresson, Edith Cresson. C'est elle qui a fait les premiers charters, on renvoie les immigrés dehors, dans leur pays, avec tout un discours autour. Et Valls, quand je disais Valls, par rapport aux Roms, c'est immonde, immonde ce qu'il dit. C'est-à-dire que si lui, il le dit, il n'y a rien en face qui s'oppose aux déclarations du Front National, aux idées du Front National. C'est qu'il leur emboîte le pas. Pour simplement un calcul politicien, c'est que vu que c'est un peu dans l'air du temps, si je reprends ça à mon compte, à Ivry ou pour le Parti Socialiste, on va ramasser des voix de gens qui pensent un peu pareil. D'abord, il fouille vraiment dans les poubelles du Front National, et puis il lui fait la courte échelle au Front National, parce que les gens, quand ils entendent ça, ils préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà, ça veut dire que si Valls tient ce genre de discours, mais c'est qu'elle a raison, Le Pen. Et boum, c'est Le Pen qui récupère. Voilà. Alors, c'est un vrai boulot qu'on a, un vrai travail militant qu'on a à faire autour de nous, qui est compliqué. Et enfin, faut pas le prendre mal, mais c'est au-delà de nos forces. On est un petit parti avec peu de militants. Alors, on fait ce qu'on peut. On est acharné, on défend nos idées inlassablement, on est vivant, bien vivant, on milite tous les jours, on y va à fond. Mais c'est des pressions dans la société, c'est des courants dans la société qui sont dominants, parce qu'il y a la crise économique, parce que les uns et les autres, que ce soit la droite qui en fait son fonds de commerce, l'extrême droite qui de toute façon en joue depuis des décennies, la gauche qui s'y met, et tu sais... Si on repense au discours du Parti communiste sur le produisons français, la direction du Parti communiste, elle a fait défendre à ses militants dans les entreprises un discours nationaliste. Le discours nationaliste qui consiste à dire nous en France, on doit garder nos emplois en France, on doit produire en France. En gros, la France, ça veut rien dire la France. C'est la France des riches ou la France des travailleurs. La France, elle est divisée en deux. La société, elle est divisée en deux. Et tout ce discours nationaliste que des milliers de militants du Parti communiste, ils ont défendu, aujourd'hui, on en paye les conséquences. C'est qu'aujourd'hui, le Front National, cette idée nationaliste, il n'a même pas besoin de la populariser. Elle est dans la tête, maintenant. Elle est propagée, elle est dans la tête, c'est devenu banal. Et c'est que produire français, oui, avec des Français. Et voilà. Le raisonnement, il est fait. Et les principaux responsables, c'est d'abord la gauche. Alors, dans une situation de crise économique, il y a toujours ces idées réactionnaires qui réapparaissent et qui servent les patrons. Ça sert les riches. C'est que les pauvres, comme tu dis, on les met en concurrence les uns contre les autres. On monte du doigt, on stigmatise... Avant, c'était les Italiens, après, ça a été les Maghrébins. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'Europe de l'Est. Vu que l'Europe de l'Est, ils sont, voilà, c'est les Roms. Bon, et c'est vrai que d'abord, c'est lamentable, parce que c'est une bêtise de penser que 17 000 Roms ne peuvent pas s'intégrer dans un pays de 65 millions d'habitants. Ça, c'est une idiotie énorme, énorme. Et en plus, ils se permettent, quand tu vois l'affaire de Leonarda, cette lycéenne, qui s'est fait embarquer dans un avion à la sortie de la cour d'école pour la renvoyer dans son pays. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? elle va à l'école, elle apprend, elle se cultive pour avoir un travail. Oui, c'est lamentable, c'est odieux, c'est ignoble, ignoble. Alors qu'un gouvernement de gauche, il se permet de ça, oui, ça donne du grain à moudre au Front National. Et c'est pas étonnant qu'il augmente. Et surtout, le fond de l'affaire, c'est que je reviens à ce que je disais par rapport à la gauche au gouvernement, où on nous fait miroiter que c'est moins pire que la droite. Et quand ils sont au gouvernement, ils trahissent la gauche. Ils servent la soupe aux patrons, ils servent la soupe aux riches. Sarkozy, c'était le président des riches. Hollande, c'est le président des patrons. Alors, il n'y en a que pour les patrons, aujourd'hui. Il n'y en a que pour la compétitivité. Il faut soigner les patrons aux petits oignons, etc. Ça fait que les gens, ils se sentent trahis. Et puis, c'est extrêmement facile, derrière, de dire on a essayé la droite, c'est pas bon. On a essayé la gauche, c'est pas bon. On va essayer la Le Pen. Alors, l'idée qu'on défend, nous, qui est compliquée à défendre, il n'y a pas de sauveur suprême. Et c'est pareil à gauche. Ah, Mélenchon, il parle bien, etc. Il n'y a pas de sauveur suprême. C'est une bêtise. Si on a ça dans la tête, on est perdu. C'est les travailleurs qui se sauveront eux-mêmes. Ça, ça a toujours marché comme ça dans l'histoire. Alors après, derrière, en vouloir aux gens, oui, on peut être scandalisé, on peut être qui tombe dans des imbécilités pareilles. Oui, d'accord, mais il faut qu'on comprenne pourquoi ils en sont venus là. Pourquoi on est défendu si bas. Pourquoi la conscience qu'on est des travailleurs et les travailleurs ne doivent pas se mettre en concurrence les uns contre les autres. Pourquoi tout ça, ça a été perdu. Pourquoi tout ça, ça a reculé. Il faut qu'on le comprenne. Si on ne comprend pas, on aura du mal à aller vers les gens et puis à les influencer et à leur faire changer d'avis. Mais pour faire reculer tout ça, il faudra une grande mobilisation sociale, il faudra un grand mouvement social. Nous, on milite, on défend nos idées, mais la vague, elle est trop grande. Il faut bien comprendre que ça, on ne peut pas tout. Tout dépend pas de nous et on ne peut pas tout faire. Mais par contre, il faut qu'on tienne bon. Justement, dans les élections, qu'il y a un moment où on nous permet de nous exprimer, il faut qu'on soit en face d'eux. Il ne faut pas qu'on leur laisse le terrain. Et c'est pour ça qu'on a décidé, le plus possible, de se présenter justement dans des villes populaires où le Parti communiste, il avait une certaine puissance qui a largement diminué, où derrière, c'est le Front National qui monte. On n'a pas envie de laisser ce terrain-là. Alors, on pèse ce qu'on pèse, mais voilà, c'est déjà le minimum d'être là et de dire, voilà, nous, on vous propose de dire non. Simplement ça. Et ça, c'est facile de le faire. Mais derrière, il faudra des luttes énormes, bien sûr. Parce que ce qui est spécifique, là où on est les seuls à le dire, c'est à pointer du doigt justement les patrons des grandes entreprises, les vrais responsables. Le Pen, jamais, jamais, là pour la retraite de la retraite chapeau de Philippe Varin, le PDG du groupe, ils ont fait une déclaration à l'AFP. Elle est très très intéressante, cette déclaration. D'abord parce qu'ils ont été obligés de la faire parce que tout le monde en parlait. Donc ne rien dire, c'était une erreur pour eux. Donc ils ont dit que c'était un scandale, cette retraite de 21 millions. C'était un scandale alors que la direction demandait des sacrifices énormes aux salariés du groupe, je cite moi à mot pratiquement, hein, simplement pour garder leur emploi. C'était pas normal qu'il ait 21 millions. D'abord, on ne nous demande pas de faire des sacrifices pour garder notre emploi. Notre emploi, il va être supprimé. On va faire des sacrifices, ils vont supprimer nos emplois. C'est une manière de justifier déjà les accords de compétitivité. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas aux patrons. Et derrière, ils ne sont pas attaqués à la famille Peugeot. C'est la famille Peugeot qui a décidé les 21 millions à Philippe Varin. Jamais la famille Peugeot n'est citée dans leur déclaration. Parce qu'il y a une limite qu'ils ne vont jamais franchir. Ils peuvent s'attaquer à Philippe Varin. Ils l'ont déjà fait. Moi, j'ai déjà entendu dans certaines élections s'attaquer aux grands PDG des entreprises publiques. C'est les entreprises publiques, c'est pas les entreprises privées. Mais ils peuvent aller aux entreprises privées, hein. C'est pas gênant. Mais jamais ils vont s'attaquer aux détenteurs du capital, aux détenteurs, aux propriétaires des entreprises, c'est-à-dire aux actionnaires. Jamais ils vont attaquer Bolloré, jamais ils vont attaquer Pinault, ils vont jamais attaquer les Peugeot. C'est leurs copains, c'est le même monde, c'est le même camp. Ben, ça, faut qu'on le dénonce. Et c'est vrai que quand on est un travailleur, voilà, voter Front National, soit on dit on se tire une balle dans le pied ou on boit un verre d'eau de Javel, pareil, ça se dit. Oui, il faut qu'on défende cette idée-là. Il faut qu'on la défende, cette idée-là. Et il y a une idée vraiment qui est... je trouve qu'il y a un argument qui peut marcher quand on discute avec des travailleurs qui est tenté par le vote du Front National, c'est lui faire réfléchir sur son entreprise. Très souvent, il y a des intérimaires. Quand le patron il a décidé de s'attaquer au CDI, il s'attaque d'abord aux intérimaires. Le Pen, elle fait pareil. Elle veut s'attaquer aux travailleurs français, d'abord elle s'attaque aux travailleurs immigrés. Une fois qu'elle aura réglé le compte des travailleurs immigrés, elle réglera le compte des travailleurs français. Parce qu'elle est contre les ouvriers. À partir du moment où elle ose s'attaquer aux travailleurs immigrés, qui est une partie du monde du travail, c'est que derrière, elle est contre les travailleurs. C'est que le Front National, c'est un parti anti-ouvrier. Et ça, cet argument, après, on en a tous les uns les autres, mais on peut l'utiliser, cet argument. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Le poids du chômage, le poids de la situation qui fait que ça pèse énormément et c'est très très compliqué de se battre, de se mettre en grève, de rentrer dans la bagarre, rentrer en guerre, comme on dit. C'est très compliqué parce que dans toutes les familles ouvrières ou de travailleurs, on connaît le chômage, où on a connu le chômage, où on sait qu'on va le connaître. Et ça, moralement, c'est un poids sur les épaules qui est très 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 difficile à repousser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et ça il faut qu'on le comprenne pour l'avenir, il y a aussi à chaque passage de la gauche au gouvernement, il y a eu un espoir avant que la gauche arrive au gouvernement, il y a un espoir légitime, compréhensible, mais aussi qui est entretenu après artificiellement. Et plus l'espoir diminue, plus il est entretenu artificiellement. À chaque fois, bon, il y a eu Mitterrand, il y a eu Jospin, là on a Hollande. À chaque fois, on sent autour de nous, en tout cas pour ceux qui ont vécu Mitterrand, Jospin et puis Hollande, on a senti que c'était quand même pas la même chose à chaque fois. Dans ma famille, Mitterrand, on a sorti le champagne en 80. Après, en 86, je ne me souviens plus. Non, en 88, on ne l'a pas sorti. Ouais. Voilà. Bon. Et au fil des élections, l'espoir, il est bon, parce qu'on s'en est pris quand même plein la tête. On se dit, c'est quand même plus compliqué. Mais il y a toujours cet espoir qui est entretenu par les partis de gauche et par les directions syndicales, les grandes confédérations syndicales. Cette idée... qui est matraqué par tous les militants ouvriers, qui est matraqué par la presse, par les médias, que la gauche est moins pire que la droite quand on est un travailleur. Et ça, c'est très très compliqué parce que au sortir de Mitterrand, Mitterrand a fait un vrai massacre dans le monde du travail, un vrai massacre. Et les militants du Parti communiste, les militants du Parti socialiste, les militants de la CGT et des autres syndicats, ils ont dû faire un sale boulot au début du gouvernement Mitterrand. Ils ont dû défendre la politique de Mitterrand, la politique du gouvernement, parce que c'était la politique de gauche, il fallait attendre, il fallait prendre son temps, voilà, c'était pas si facile que ça de tout changer, etc. Puis on se rend compte que ici, dans l'Est, dans la région, ça a été un vrai massacre. C'est quand même la gauche qui a quand même massacré. Puis après, on a eu la droite. Puis après, on a de nouveau la gauche. Et on retombe dans le panneau. Puis après, on a encore Hollande. Et puis là, on se rend compte que là, très très franchement, quelle est la différence? Encore à l'époque, on pouvait nous rétorquer, mais sur le racisme, sur ces idées-là, il y a quand même une différence entre la droite et la gauche. Là, entre nous, est-ce qu'il y a une différence entre Valls et Guéant? Valls et Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il n'y en a aucune. Valls, il pourrait être à droite. Parce qu'en fin de compte, et ça, du coup, ça pèse énormément, parce que quand on a de l'espoir, qu'on est trahi, alors il y a deux solutions quand on est trahi. On est tellement en colère que là, ça déboule et que ça explose. Et c'est pas le cas. C'est très peu le cas. C'est très souvent le cas. C'est très peu souvent le cas. Ouais. Et, mais, ou alors, il y a la démoralisation. On a les jambes coupées. On y a cru dur comme fer. On se fait trahir. On baisse les bras. On dit à quoi ça sert. Je me suis fait avoir. J'ai donné tant d'heures, tant d'énergie, tant de temps, etc. pour ça. Pour me faire avoir. Et après, mes collègues de travail, même, ils me crachent à la... Bon, voilà, c'est compliqué à vivre. Et c'est pour ça que dans la classe ouvrière, dans les entreprises, dans les quartiers, il y a de moins en moins de militants politiques. Même du militant des partis partis communistes. Et en tant que travailleur, on le paye très très cher, le fait qu'il y ait de moins en moins de militants politiques dans les usines. Parce que mine de rien, les patrons en face, ils font de la politique. Ce sont des vrais militants. Ils sont militants de leurs intérêts, de leur classe, de leur pognon. Et ils savent, alors ils militent différemment de nous, mais ils sont dans les cabinets ministériels, ils sont dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ils sont dans les gouvernements, ils sont copains comme cochons, ils vivent ensemble, voilà, tout ça c'est un vrai monde, un même monde. Et c'est ça qui nous fait du mal, c'est que nous, derrière, on perd de la conscience. On perd de la conscience de nos intérêts. Parce qu'on a de moins en moins de militants autour de nous. Alors il y a ça qu'il faut recréer, il y a ça qu'il faut reconstruire. Alors c'est compliqué, c'est compliqué. Et quand on voit que sous Hollande, simplement pour la hausse de la TVA, les syndicats ne sont même pas capables d'appeler les travailleurs à descendre dans la rue. Et pourquoi? Et on sent bien que dans les responsables syndicaux qu'on fréquente peut-être, en tout cas avec qui on discute, il y a une gêne de manifester contre Hollande. Parce qu'il y a les bonnets rouges, parce que... il y a les ambulanciers qui sont des. Il y a les agriculteurs qui descendent dans la rue, etc. Et qu'ils se disent plus ou moins sincèrement, plus ou moins honnêtement, mais si nous, on se met à descendre dans la rue, on va vraiment le mettre en difficulté, le gouvernement. Et on va le faire tomber. On pourrait le faire tomber. Bah ouais, mais si que la droite ou que ces catégories-là, les petits commerçants, les artisans, les camionneurs, les petits patrons qui manifestent, si le gouvernement y tombe, il tombe à droite. Il ne tombera pas du côté de la gauche, du côté des travailleurs. Et il faut que les travailleurs, justement, ils descendent dans ces moments-là, dans la rue, pour dire, mais bon Dieu, nous, on existe, et nous, on est les plus nombreux. Et les petits commerçants, si nous, on est licenciés, vous, vous crevez. Donc on a même un intérêt commun entre petits commerçants, artisans, ambulanciers, agriculteurs, pêcheurs, etc., et même petits camionneurs, de manifester contre les vrais licencieurs, les grands patrons, et ce gouvernement qui les aide. Mais pour ça, il faut avoir une politique, il faut avoir une perspective. Il faut avoir une organisation, il faudrait qu'il y ait un parti dans ce pays qui représente vraiment cette politique et qui la propose. Alors on va dire quand on dresse un... on a un gros boulot devant nous, ouais, on a un gros boulot devant nous. Parce qu'on a tout à reconstruire. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, on va se faire écraser. Et là où on a, pour nous, quand je dis pour nous, c'est le camp des travailleurs, la classe ouvrière, on a pour nous... une force gigantesque, c'est que entre les mains, les travailleurs, ils ont une puissance énorme. C'est eux les plus forts. Parce que c'est eux qui font tourner toute la société. C'est eux qui font fonctionner la société. C'est eux qui créent les richesses. C'est eux qui fabriquent le profit. Et à partir du moment où ils ont retrouvé, où ils retrouveront cette énergie, cette force de s'arrêter de travailler, de réfléchir, descendre dans la rue, d'occuper les usines, les entreprises, et d'imposer des revendications... C'est-à-dire que la peur, elle change de camp. C'est là où on est les plus forts. On est les plus forts si on a une politique, si on a une perspective, si on sait où on va, si on a une feuille de route claire et nette, si on ne va pas se faire avoir par des beaux parleurs à la Mélenchon qui vont prendre le pot de peinture, ils vont se mettre en rouge, ils vont dire « moi je suis avec vous, ce que vous avez gagné c'est formidable, c'est énorme, jamais la classe ouvrière n'a gagné autant, il faut qu'on s'arrête sinon on va tout perdre ». Non, il ne faudra pas qu'on s'arrête, il faudra qu'on aille le plus loin possible, jusqu'où nos forces nous porteront. Et voilà, c'est tout ça qu'il faudrait qu'on discute dans les ateliers, dans les bureaux, dans les quartiers, dans les cages d'escalier, ces idées-là, parce qu'on se rend compte qu'on a une tâche énorme devant nous, mais elle peut très très vite, on peut en venir à bout extrêmement rapidement quand il y aura des explosions de colère, quand il y aura des explosions sociales, quand les travailleurs reprendront force et énergie pour se battre. Et ça arrive très très vite. Hein. Ça peut, quand on regarde simplement la Bretagne, ce qui s'est passé, personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé en Bretagne. Toutes ces manifs qui n'étaient pas énorme, ce n'était pas des raz de marée, mais c'était suffisamment fort en tout cas, et la situation elle est suffisamment difficile pour que le gouvernement il sache que voilà, là il faut que je suspende l'écotaxe, sinon ça va se propager dans toutes les régions de France. Et dans les entreprises, très souvent ça arrive, ça. Enfin très souvent, ça arrive. Quand dans une usine ça explose, le patron il cède ou il cède pas, c'est là où il juge, voilà, si je cède pas, ça va s'étendre. Bon, et c'est notre force. Et notre force, c'est qu'on a un intérêt commun. Et c'est que, encore une fois, c'est nous qui faisons tout fonctionner. Mais voilà, donc on est... faut être optimiste, quoi. On va y arriver.
Il y a les centres de tri aussi qui vont disparaître, que vont devenir les facteurs, tout ça. La poste...
C'est exactement le même problème que tout un tas de secteurs dans tout un tas de secteurs de l'économie. C'est que là, c'est l'État qui est à la manœuvre. Hein. Et on pourrait dire pareil pour les centres hospitaliers.
Oui.
On pourrait dire pareil pour l'éducation nationale. On pourrait parler, voilà, il y a tout un tas de secteurs, les maternités, les hôpitaux,
les gares.
Ça supprime à tour de bras, ça licencie à tour de bras, et on surcharge de travail ceux qui restent. Pour dépenser moins d'argent pour les entreprises publiques, en tout cas d'utilité publique, pour dégager de l'argent pour le donner aux patrons privés. Quoi. Pour plus qu'ils alimentent la finance ou je ne sais quoi, en tout cas qui. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les patrons, ils n'investissent pas, en tout cas dans la production. Ils investissent dans la finance, quoi. Et ça, c'est aussi une vraie... dans tous les secteurs de l'économie, en fait, on se rend compte qu'il y a la même politique, que ce soit le gouvernement qui est à la manœuvre, ou que ce soit les patrons privés qui sont à la manœuvre. Hein. Et qu'il faudra y mettre un coup d'arrêt, quoi. Nous, on propose... On a un programme de lutte. Des revendications... J'ai un peu expliqué très rapidement l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminuer les salaires, l'augmentation automatique des salaires, des pensions et des allocations en fonction de l'augmentation des prix, des impôts et du coût de la vie en général, et puis le contrôle des comptes de toutes les grandes entreprises, qu'elles soient des banques, des industries, etc. Bon. Mais par rapport à la dernière intervention, il faut absolument qu'on pointe, qu'on dénonce ceux qui sont responsables de la situation. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui on est réduit au chômage? Pourquoi aujourd'hui on a nos salaires bloqués? Pourquoi aujourd'hui on a les 500 familles les plus riches de France qui ont vu leur fortune augmenter de 25% l'année dernière alors qu'on est en pleine crise économique? Comment ça c'est possible? Comment ils ont trouvé ce moyen-là? Comment ils ont fait? Il faut bien qu'on l'explique et montrer que, en fait, par notre travail, par les licenciements, par le blocage des salaires, par le fait qu'ils nous imposent une vie de plus en plus difficile à vivre, de plus en plus dure, là-haut, ils nagent dans le fric, ils nagent dans les milliards à n'en plus savoir que faire. Ils peuvent le claquer dans des yachts de luxe, dans des maisons de luxe, ils ont un train de vie qui est... C'est même pas scandaleux, ce train de vie. Il est inhumain dans cette société. Inhumain. Parce que la majorité de la société, on en crève de ce système. Alors, je suis d'accord qu'il faut amener des propositions. Mais il faut absolument qu'on dénonce aussi ceux qui sont responsables. Parce que ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est qu'on a tous les partis politiques qui dénoncent des catégories, des gens qui ne sont pas les responsables. Quand on entend que c'est soit les immigrés ou les pauvres ou ceux qui sont ou les chômeurs ou ceux qui sont RSA, c'est eux qui sont les responsables de cette crise, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Et il faut dire la vérité. La vérité, c'est que c'est les patrons des grandes entreprises qui sont responsables de cette situation. Et qui sont aidés, soutenus de mille façons par les gouvernements, de gauche, de droite. Là-dessus, ils se valent. Même, ils font de la surenchère. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il fait de la surenchère. C'est pas un problème que de personnes entre Hollande et Sarkozy. C'est un problème de situation économique où la crise est présente, elle est loin d'être finie, elle s'approfondit même, et que derrière les patrons, pour qu'ils en gagnent encore plus, il faut que nous, ils nous en mettent encore plus sur la tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut absolument qu'on dénonce. Sinon, sinon on ne dit pas la vérité. Et puis on ne pointe pas les vrais responsables. Si on ne pointe pas les vrais responsables, on ne sait pas contre qui il faut se battre. Parce que la société, elle n'est pas divisée en gauche-droite. Elle est divisée entre les patrons et les travailleurs. Et ce n'est pas un problème de la région de Metz. Oui, ce n'est pas un problème de Lorraine.
Non, mais c'est général. Je veux dire, c'est une raison générale.
C'est général en Europe.
D'accord, moi je prends l'histoire par exemple parce que je suis...
Voilà, c'est des trucs qu'on connaît. Mais ce qu'il faut d'abord avoir conscience, c'est que c'est vrai en Bretagne, c'est vrai dans le Nord, c'est vrai dans le Centre, c'est vrai en Corse, c'est vrai partout. Et qu'on pourra y arriver si on s'y met tous ensemble. L'activité économique, ce n'est pas ça qui manque. Les besoins sociaux de la population, le minimum vital, ce n'est pas ça qui manque. Les logements, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est utile à la vie d'une population qui n'a que son salaire pour vivre, voilà, il y a un champ énorme qui s'ouvre, un champ énorme. Le logement, par exemple, on a je ne sais pas combien de mal logés en France, bah, il suffirait de prendre que l'État prenne en charge, prenne en main la construction, et ça on sait faire maintenant, la construction de centaines de milliers de logements, là il y aurait du boulot pour tous les corps de métier. Et au lieu de donner les 20 milliards aux grands patrons, où ils en font en fait ce qu'ils veulent, tous ces milliards pourraient être consacrés, par exemple, à construire des logements sociaux, à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à embaucher des professeurs, des enseignants, pour diviser le nombre d'élèves par classe. Y aurait énormément à faire. Pour ça, il faut avoir une politique. Enfin, c'est un problème de volonté politique. C'est où est-ce qu'on met l'argent public ? Dans quoi on le met ? Est-ce qu'on le met dans la caisse des patrons, sans contrôle et sans droit de, et sans regarder ce qu'ils en font ? Ou est-ce qu'on le met dans les budgets sociaux, publics, où c'est l'État qui prend en main, toutes ces activités économiques ?
Voilà, c'est ça que je dis.
Mais après, sur l'autogestion... L'autogestion en soi, c'est une très belle idée. Il y a un chaînon qui manque dans le raisonnement, que tu fais, c'est qu'il faut prendre en main les entreprises. Il faut que les entreprises qui sont dites propriétés privées deviennent la propriété collective de la société. Et pour ça, et pour pouvoir les autogérer, sur l'autogestion d'une entreprise... Dans le sens révolutionnaire du terme, c'est différent des scopes. Hein. Je reviens après avec les scopes. Il n'y a pas de souci. Oui, nous, on milite pour une société où c'est la population qui gère elle-même la société, qui s'autogère. Et pour ça, il faut prendre en main les entreprises. Il faut les contrôler, mais les prendre véritablement en main. Et pour les prendre véritablement en main, il faut prendre le pouvoir politique. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu ne peux pas avoir des îlots d'autogestion, d'entreprise, donc version scope, et puis avoir 1, 2, 10, 100, 10 000 entreprises scope comme ça, et puis on pourrait autogérer par exemple la France, voire l'Europe, si on pousse le raisonnement à l'extrême, parce qu'en face, il y a le pouvoir politique en face. En face, il y a l'armée, il y a la police, il y a des forces qui sont là pour quand même garder le contrôle que les patrons, que les capitalistes, les grandes familles bourgeoises, ils gardent le contrôle de la société. Mais les scopes, c'est extrêmement compliqué, les scopes. On ne peut pas s'en sortir dans ce système sans le changer fondamentalement. On ne peut pas le changer par un biais où on ferait une scope dans un coin et puis on l'agrandirait parce que la scope, elle est soumise au marché. Et une scope, c'est comme une petite entreprise face à une grosse entreprise. Ils sont soumis au marché, ils sont soumis à celui qui a les reins plus solides que l'autre, il le bouffe. Et dans ce système, c'est le gros qui bouffe le petit. Voilà. Et même, il y a des gros qui se bouffent entre eux. En 2008, il y a la première banque américaine, elle est tombée en faillite. Elle s'est fait bouffer par d'autres. Parce que là-dedans, c'est la jungle, c'est la guerre. Une SCOPE en elle-même, elle ne peut pas survivre, de toute façon. Parce que c'est le système complet qu'il faut changer. Et pour le changer, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre le pouvoir politique. Et pour qu'on puisse véritablement changer la société, il faut que ce soit les travailleurs, c'est-à-dire la population, qui prennent en main entièrement la société. Ça, oui, là-dessus, on est d'accord. Et qu'il faudrait réorganiser tout à fait complètement l'économie. Et la faire fonctionner en fonction du... pour satisfaire les besoins au moins vitaux de l'humanité. Mais ça, c'est une longue histoire. Un ou deux mots pour tout ce qu'on a dit, toutes les idées qu'on défend. Donc on va se présenter aux élections municipales. On a besoin de toutes les aides. Alors de pas grand-chose à beaucoup, selon ce qu'on peut donner. On a besoin de vraiment toutes les aides de tout le monde, y compris distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres de sa cité, de son HLM, etc. Coller des affiches, distribuer des tracts. Enfin, voilà, on a vraiment besoin qu'on soit le plus nombreux possible à défendre ces idées-là, parce qu'en face, ils vont pas nous faire de cadeaux de toute façon, et il faut absolument qu'on popularise des idées qui seront utiles demain aux travailleurs quand ils auront retrouvé la force de se remettre debout et de relever la tête, et puis de partir à l'assaut et de partir à l'attaque. Voilà.